Ils nous ont pris Jeanne d'Arc, cette fille du peuple, abandonnée par le roi, que l'élan populaire venait de rendre victorieux, et brûlée par les prêtres, qui depuis l'ont canonisée. Discours de Jean Perrin, membre de l'Institut, le 14 juillet 1935, lors d'un meeting du Rassemblement populaire.
Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau.
La figure de Jeanne d'Arc est indéniablement une des figures emblématiques de l'histoire nationale de la France. Chacun sait qu'elle a réussi à convaincre Charles VII de le servir à partir de 1429. Elle a libéré Orléans, elle a conduit le souverain jusqu'au sacre de Reims, puis capturée, elle a été livrée aux Anglais, qui l'ont fait condamner à mort par un tribunal ecclésiastique et elle-même est morte sur le bûcher le 30 mai 1431. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'est devenue Jeanne d'Arc après Jeanne d'Arc. Dans un premier temps, assez vite après sa mort, il a fallu la réhabiliter. En effet, le souverain victorieux, Charles VII, ne souhaitait pas que l'on puisse dire qu'il avait été soutenu, aidé, par une sorcière, par une relapse, éventuellement par une hérétique. Donc, il fallait la réhabiliter. Ce qu'un tribunal ecclésiastique avait fait, un autre tribunal ecclésiastique pouvait le défaire. La réhabilitation de Jeanne fut obtenue en 1456. Mais il faut bien avouer que par la suite, le personnage historique tend à disparaître de la mémoire des Français. Certes, Voltaire, en 1762, avait publié sur Jeanne d'Arc un opuscule, d'ailleurs volontiers sarcastique, sur le personnage. Mais c'est surtout le XIXe siècle qui va redécouvrir Jeanne d'Arc. À qui le doit-on ? La paternité vient peut-être de Michelet, le grand historien qui, en publiant le tome 5 de l'Histoire de France, en 1841, a fait redécouvrir le rôle, la personnalité de Jeanne d'Arc. Il en fit d'ailleurs une espèce de sainte laïque. De plus, entre 1841 et 1849, l'érudit Jules Quichera a publié les documents sur Jeanne d'Arc, en particulier les pièces du procès. Et cette œuvre d'éditeur et d'érudit a permis aux élites française de redécouvrir Jeanne d'Arc. Reste que l'Église ne pouvait pas abandonner cette personnalité désormais reconnue. En 1869, le 8 mai exactement, c'est-à-dire le jour anniversaire de la libération d'Orléans, Monseigneur Dupanloup, évêque de la ville, prononça un panégyrique qui annonçait finalement la demande de canonisation ou l'ouverture du procès de canonisation. Celui-ci est ouvert en 1874. En effet, à la demande du chapitre de la cathédrale d'Orléans et de la mairie d'Orléans, on ouvre un procès informatif diocésain afin de favoriser le procès en canonisation à Rome. Les travaux vont durer un peu plus de 20 ans. En 1894, le pape Léon XIII reconnaît les vertus héroïques de Jeanne d'Arc et elle est reconnue vénérable. 3 ans plus tard, à Rome, s'ouvre donc le procès apostolique sur les vertus de Jeanne d'Arc. Et il faut bien le dire que le procès de Jeanne d'Arc est totalement à mettre en parallèle avec une actualité extrêmement difficile entre l'Église, le Saint-Siège et la République française. En 1905, la loi de séparation, qui avait été précédée l'année précédente par la rupture entre le Saint-Siège et l'État français. Et c'est donc dans ce contexte qu'en 1909, Jeanne d'Arc est béatifiée. L'Église entame donc un processus qui peut aboutir finalement, à la canonisation. Mais éclate en 1914 la Grande Guerre. Et il faut attendre finalement 1920 pour que, à la fois, l'Église canonise la personne de Jeanne d'Arc et finalement fasse d'elle une sainte vénérée dans les églises. Et dans le même temps, la Chambre Bleu Horizon va décider de faire du 8 mai une date nationale commémorative de Jeanne d'Arc. Désormais, les deux camps étaient bien en voie de récupérer la personne de Jeanne. La canonisation n'est que le début d'une postérité importante pour la personne de Jeanne d'Arc. Nombre d'églises mettent des statues devant le parvis ou à l'intérieur même de l'édifice. Beaucoup de municipalités font dresser des statues depuis la fin du XIXe siècle et durant le premier tiers du XXe siècle sur des places, à Toulouse par exemple. Mais il y a aussi un enjeu culturel. Le cinéma va s'emparer de Jeanne d'Arc. En 1928, le film de Karl Dreyer rend populaire le moment du procès avec une Renée Falconetti jouant Jeanne d'Arc. En 1948, Ingrid Bergman va donner ses traits à la sainte. Et également, grand film d'ailleurs, peut-être le plus historique indéniablement, est celui de Jacques Rivette, où Sandrine Bonnaire, en l'espace de près de 6 heures, joue une formidable Jeanne d'Arc. Mais il y a également un enjeu très politique, car tous les camps veulent récupérer Jeanne d'Arc. Et en même temps, elle est difficilement récupérable par tous, parce qu'elle va appartenir un peu à tout le monde. Prenons quelques exemples. Les monarchistes de l'Action française, par exemple, veulent récupérer Jeanne d'Arc. Mais il faut bien avouer que le roi n'a pas fait grand-chose pour la libérer et que donc la monarchie, si elle a bénéficié de l'aura de Jeanne d'Arc, eh bien l'a laissée aux mains des Anglais qui de toute manière auraient eu sans doute mauvaise grâce à la libérer. L'Église avait condamné Jeanne d'Arc, en tout cas un tribunal ecclésiastique. Certes, Charles VII avait trouvé d'autres ecclésiastiques pour la réhabiliter, mais c'est vrai qu'elle ne correspondait pas totalement à la vision de la sainteté traditionnelle d'une femme. Elle avait pris les armes, elle s'était déguisée en homme, elle avait accompagné des assauts. Indéniablement, elle sortait des cadres traditionnels. Du côté des républicains, par exemple, du XIXe siècle, c'est vrai qu'on pouvait utiliser Jeanne contre le roi. On pouvait l'utiliser contre l'Église. Mais en même temps, on ne pouvait pas enlever à Jeanne qu'elle était une pieuse catholique, fidèle à son roi, fidèle à Dieu, et qui finalement avait su toujours répondre en chrétienne lors des interrogatoires du procès. Ainsi, quand un des juges lui avait demandé si elle était en grâce, elle répondit avec aplomb, « Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette, si j'y suis, qu'il m'y garde. » Indéniablement, cette catholique pouvait également gêner le camp républicain qui se voulait volontiers anticlérical. Autre élément, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a pu servir à la fois la résistance, comme évidemment élément de résistance contre, entre guillemets, l'occupant anglais, mais inversement, des affiches en 1944 la voyaient sur son bûcher de Rouen, qui venait d'être bombardé par l'aviation anglaise, et avec, comme légende, les assassins reviennent toujours sur le lieu de leur crime. Et donc Jeanne d'Arc était, à ce moment-là, utilisée par la propagande collaborationniste. Ensuite, il est indéniable que la récupération par le Front National à partir de 1988, avec les organisations de manifestations, tout particulièrement Place des Victoires à Paris, avec dépôt de gerbes devant la statue de Jeanne, a pu accentuer la controverse politique autour du personnage. En fait, pour être juste, depuis que le XIXe siècle a véritablement redécouvert la personne de Jeanne, celle-ci appartient finalement à tout un chacun. Et finalement, les Français, les petits Français qui ont étudié l'histoire nationale au XIXe siècle et au XXe, que ce soit dans les écoles catholiques ou dans les écoles de la République, ont pu retrouver Jeanne, sans doute montrée de manière diverse, mais faisant d'elle un des personnages sans doute les mieux partagés de la nation.